Bonjour et bienvenue à Point de vue, le podcast 100% cinéma à Montréal, épisode 52. Mon nom est Paul Landriot et je suis avec mes collègues
Rémi Fréchette
et Pascal Plante.
Donc, on enregistre, c'est un peu les hasards de la production, mais tu sais, on fait ça un peu dans nos temps morts. Puis là, on enregistre vraiment pas longtemps après le dernier épisode. Donc, c'est assez drôle.
Parce qu'on n'a pas eu le temps de voir tant d'affaires cette semaine.
Ouais,
c'est ça. Avant d'enregistrer nouveau, là.
Peut-être, mais on a quand même vu Spring Breakers. Donc, juste ouais. ça vaut la peine.
Donc, c'est là-dessus vraiment qui va se porter la fin de l'épisode. Mais pour commencer, des petites annonces rapidement. Un choix assez étrange, mais d'un cinéaste que ça surprend pas, Sion Sono. Il décide de caster son prochain film avec YouTube. Donc, si vous habitez au Japon, vous pouvez faire une petite vidéo d'une minute sur YouTube qui explique qui vous êtes et c'est quoi votre talent. Et puis, voilà, vous avez la chance de jouer dans le prochain film de Sion Sono.
C'est quand même pas pire, là. C'est un bon deal, là. Ça vaut la peine d'essayer.
Woody Allen, il devrait faire ça. T'sais, il dit qu'il voit les gens en moyenne entre 1 et 5 minutes en audition.
Ouais, mais c'est pas pareil. Woody Allen connaît l'historique de ces acteurs-là. T'sais.
Ouais, non. Mais même pour le casting secondaire, là, je sais que. Puis, t'sais, lui, son point de vue, il est vraiment drôle. T'sais, ben, ça, c'est le documentaire de 3 heures sur Woody Allen là, que j'ai visionné, que Rémi aussi t'as vu, si je me trompe
pas. Ouais, j'ai vu ça. J'ai vu ça la semaine passée. Ouais, c'est, ouais, aussi, j'ai vu la version courte, par exemple, mais c'est assez spectaculaire comme documentaire.
Ben, moi aussi, je l'ai vu il y a 2 semaines, je pense, mais je dirais que. Pour un film de 3h, 3h15, ça va pas si loin que ça, en fond.
Ouais, c'est juste qu'il est tellement effacé, Woody Allen, d'habitude, puis il donne aucune entrevue, il met pas de bonus, il veut pas qu'il y ait de bonus sur ses DVD, puis là, tu peux entrer dans sa maison, puis voir un peu comment il travaille. Là. Tu le vois travailler avec sa machine à écrire, comment il trouve ses idées, comment il accumule ses idées aussi.
Ouais, c'est vraiment remarquable, hein, que la machine à écrire qu'il a achetée quand il avait genre 20 ans, c'est avec cette machine à écrire-là qui a travaillé toute sa vie.
Tu t'imagines comment qu'elle vaut, genre, la valeur ouais. marchande de cette machine à écrire-là.
C'est clair qu'à un moment donné, si jamais, dans un futur où Dallin ne sera plus des nôtres...
Si jamais il meurt.
Non, mais en tout cas, bref, quand sa succession va vouloir mettre ça en vente ou le donner à un musée ou quelque chose, ça peut... valoir des millions pour les fans.
Mais dans le documentaire, en fait, les moments les plus intéressants, je trouve que c'est quand le moment où il parle de sa relation avec les comédiens, puis sa relation aussi sur le casting. Puis c'est ça, parce que je faisais la blague, parce que Allen, il explique ça comme ça, il dit, ben moi, je leur rends service, tu sais, quand je sais qu'ils sont pas corrects pour le rôle, ben... Je leur dis tout de suite, puis eux autres, ils retournent chez eux, puis ils peuvent faire de quoi d'autre de leur journée, puis ils n'auront pas perdu leur temps.
Ben, c'est aussi fascinant la manière qu'ils donnent ces scénarios aux acteurs. Hein.
C'est vraiment secret, là. C'est comme l'espèce
ouais.
de...
Ouais, il y a comme un agent, une personne qui travaille pour Woody Allen, qui se déplace avec le script, peu importe où est-ce que tu habites, en France, aux États-Unis, sa côte ouest, etc. Puis là, comme il arrive sur place, il donne le script, puis il est comme, OK, t'as genre l'après-midi pour le lire, je repars à 5 heures. Puis tu peux pas garder le script avec toi. Donc, c'est quand même, tu sais, ça va être stressant. T'es un acteur, là, puis là, t'as genre un agent devant toi, puis comme, lis le script.
ouais.
Donc, tu faisais un parallèle à Sion Sono?
Bah oui, par rapport au casting un peu, mais ouais.
Mais Sion Sono, il est pas non plus à une expérience près. Je veux dire, c'est quand même quelqu'un qui explore souvent dans les formes, puis comme son film Love Exposure, je reviens là-dessus, mais c'est un film tourné en caméra mini DV ou peut-être pas mini DV, mais en tout cas tourné vraiment avec des caméras pas super bonnes là, à travers Tokyo, puis il y avait un premier cut, je pense, qui durait 6 heures. Finalement, le film dure 4 heures, puis c'est vraiment un film quand même, je trouve, exceptionnel, puis qui a eu quand même du relatif succès là, à sa sortie.
Mais il en fait tellement des films qu'on dirait qu'il n'y a pas vraiment encore l'espèce de tag Sion Sono qui est vraiment important pour la distribution outre-mer. Ce que je veux dire par là, c'est que Guilty of Romance à Montréal, on l'a eu peut-être quelques semaines à l'Excentriste, c'est déjà bon, mais Imizu, on l'a pas encore vu en salle, puis je sais pas s'il va se pointer le bout du nez un jour. Puis il y a une couple d'autres films comme ça là, qui sont vraiment acclamés, qui sont bien reçus partout dans le monde, mais que pour quelconque raison, on dirait qu'il n'y a pas d'engouement encore. C'est pas un réalisateur que le grand public va courir pour aller voir. Puis je pense que ça risque de changer ça, dans les prochaines années. Bon, en tout cas, j'ai l'impression. S'il continue à faire des productions de qualité comme il nous a habitués à faire depuis les 5 dernières années.
Ouais. Sinon, Rémi, tu avais une annonce de Spike Lee que tu voulais nous partager.
Ben, Spike Lee qui envoie sa réponse à Django, en fait, qui va faire le film The Unchained. Ouais, c'est ça, puis il a dit dans l'entrevue This time the word nigga will be used with class and respect for my ancestors. Oh. Ça serait comme un film là, genre all black cast, où ça serait un esclave noir dans le fond qui se lie à un ancien esclave qui est maintenant chasseur de primes. C'est vraiment la même histoire, puis ils font le tour des États-Unis pour descendre des riches blancs, en fait là.
Mais ça, ça n'a pas de bon sens, là. Ça veut dire que, tu sais, un artiste, là, me semble qu'il y a la motivation pour écrire ou pour, tu sais, faire quelque chose, doit venir d'une quelque chose à communiquer, d'une passion. Lui, c'est, ça vient de, c'est un message de haine, on dirait, là. C'est des petites vengeances, puis des petites. C'est comme quand son Miracle à Sainte Anna, puis ces affaires-là. C'est quoi sa motivation pour faire des films aujourd'hui, Spike Lee? C'est vraiment
douteux. Ouais, c'est juste de la rage,
là. Ça dépend pourquoi, parce qu'il fait beaucoup de documentaires aussi, puis moi, je voudrais défendre notamment le documentaire Bab que j'ai vu l'an passé, qui était quand même très bien. Je trouve que c'est un des meilleurs documentaires de l'année. Le seul lien qu'on pouvait faire avec, mettons, sa thématique et sa défense raciale, c'est que c'est un portrait de Michael Jackson, puis évidemment, il y avait beaucoup de collaborateurs noirs dans le documentaire, mais il était vraiment pas comme, mettons, Miracle at Satana, c'était pas en réponse à quelque chose.
Mais c'est que, tu sais, c'est bien d'avoir un propos, puis c'est bien de vouloir prêcher sa paroisse un peu, puis il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est que on dirait qu'il y a tout le temps le voile de rage qui fait que.
Ben,
il
là, ça s'appelle The Unchained en plus, c'est, ça, c'est direct. Là. Ça, mais c'est vraiment bon plate sens. Parce que, tu sais, c'est juste un poisson d'avril. Là.
Je m'en doutais un peu, je pense.
Si, Rémi, je me suis fait avoir.
Donc, on enregistre lundi le 1er avril.
Hey, attends, c'est sûr que je m'avance d'ici la fin du podcast. C'est sûr que c'est la fin.
Mais là, OK. Là, on est lundi soir. Là, c'est sûr que le podcast sera pas en ligne avant au moins, tu sais, le 2-3 avril. Là. Fait que ceux qui vont écouter l'émission, comme ils vont, déjà, char, ils vont vraiment être tannés des poissons d'avril déjà.
Ouais, mais regarde. C'est pas grave. On enregistre le 1er avril. Boum, boum, boum.
OK. Vivez avec. Maintenant, pour les critiques de la semaine, toi, Pascal, t'as vu Hitchcock de Sacha Gervasi, ou Gervasi, ouais, ça... je sais pas comment prononcer
ça. Ouais, c'est ça. Ben, c'est pas un film que la mise en scène est particulièrement extraordinaire. Fait que c'est le metteur en scène est vraiment effacé derrière le film. Bon, Hitchcock, c'est quoi? C'est le... C'est autour de Hitchcock, mais c'est vraiment autour de l'épisode de Psycho, du making-of de Psycho, où il y a, dans le fond, un réalisateur vieillissant, dans ce cas-ci, Alfred Hitchcock, qui veut prendre des risques. Là, il y a le film ouvre sur l'ouverture de By Northwest, qui est vraiment acclamé, tout ça. Puis, mais là, lui, il dit ah, c'est les mêmes genres de films que je faisais quand j'étais plus jeune. Ce qui est un peu vrai, en fait, parce que comme des films genre The 39 Steps ou des films comme ça, c'est vrai que c'est North by Northwest, c'est un peu une espèce de revampe de films d'espionnage qu'il a déjà fait par le passé, c'est vrai, mais ça reste un de ses films les plus solides de sa filmographie, à mon humble avis. Et puis là, le film prend là où le réalisateur est un peu blasé, il veut faire de quoi de différent, il a peur d'être mis dans une cage, et il entreprend de Psycho. Donc, tiré d'une histoire vraie, là, tiré d'un vrai tueur qui s'était habillé comme sa mère, qui avait déterré sa mère et tout. Bon.
Ben non, ça c'est pas vrai. Ça. Puis je veux défendre ça parce que je sais pas à quel point il en parle dans le film, mais c'est censé être basé sur Ed Gein. Mais Ed Gein, c'est une autre twist. Là. C'est comme Massacre à la tronçonneuse, ça serait basé sur lui. Hannibal, ça serait basé sur lui. Mais à un moment donné, on se calme.
OK, ben c'est ça, c'est Ed Gein justement.
Il paraît puis... aussi que Django Unchained, c'est basé sur lui.
Ouais. Bref, fait que c'est ça. Mais entre vous puis moi là, puis désolé Joanie si elle nous écoute, mais j'ai vraiment pas aimé le film. Puis je vais dire pourquoi.
C'est dans son top 3, hein. C'est le numéro 3, je pense.
Ouais, je pense que oui. Mais donc désolé, mais c'est un film qui a plein de qualités par-ci par-là. Il y a une très belle finale entre autres. Je pense que le film ouvre sur la première de North by Northwest et finit sur la première de Psycho. Et le film se veut la chronique de qu'est-ce qu'il s'est passé pendant ce temps entre ces deux films. Et la finale est vraiment très très belle. C'est pas un spoiler, c'est pas un punch, mais il y a comme, tu sais, une espèce d'ode au cinéma, là. C'est vraiment très beau. Ça me faisait quasiment penser à une finale à la Cinéma Paradiso. Bon, c'est sûr que c'est beaucoup moins lyrique, mais tu sais, moi ça me touche des moments comme ça où ouais, tu vois des gens qui sont vraiment emballés par le cinéma puis qui sont vraiment dans le film. Puis donc, t'as juste le son de la scène de la douche puis t'as des gros plans des gens dans la salle. Puis c'est vraiment une séquence, c'est vraiment hallucinant. Là. Ça, c'est une très, très, très belle séquence. Les amoureux de cinéma peuvent pas rester de marbre sur une finale comme ça. Donc ça...
Oui, parce que c'est un moment historique, tu sais, qui se trame en direct, entre guillemets. Là. Mais ça fait penser aussi un peu à la finale d'Ed Wood, que, le film de Tim Burton que j'adore, et puis que t'as le goût que ça continue, tellement c'est un bon film. Puis malgré le contexte est différent, là, c'est plutôt... une espèce de navet qui joue, mais quand même, tu sais, juste
mais non, mais l'énergie. La façon que le Tim Burton le beurre dans le film, c'est ça passe pas comme un navet plein de neige. Il dit jamais que c'est un navet dans le film. Tu vois juste la passion dans leur visage, puis... tu files avec eux. Là.
Puis avec Johnny Depp qui dit la ligne, quelque chose comme This is the one I'm gonna be remembered for ou quelque chose comme ça. Là.
Ça, c'est magnifique.
C'est vraiment une belle finale.
Oh, ouais, c'est vraiment une belle finale. Puis je te dirais que la fin de Hitchcock est solide. Là. C'est vraiment dans cet ordre-là. Puis c'est un très très beau compliment. Par contre, pour se rendre jusque-là, c'est une espèce d'histoire qui n'a pas full de sens parce que, en fait, on a pris l'axe de la relation avec sa femme qui est, a priori, quelque chose de très intéressant parce qu'on sait que sa femme, ils ont été mariés. Donc, dans le temps de Psycho, ça faisait déjà 30 ans qu'ils collaboraient ensemble. Donc, à partir des films muets de Hitchcock, il commençait déjà à collaborer avec sa femme sur ses films. Puis, c'est un peu le concept, c'est que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Puis, je pense que c'était ça un peu le mandat du film, c'était de redonner les lettres de noblesse au fait qu'il y a une grande femme derrière le génie qui est Alfred Hitchcock. Même que à la fin, c'est un peu tout croche. Là, c'est comme le film, il fait un screening pour les critiques, puis là, ça marche vraiment pas. Puis là, sa femme s'en va dans la salle de montage, puis là, il y a comme un montage, là, un American montage. Il y a un American montage de montage. Puis là, après, genre, c'est comme le film est parfait. En tout cas, ça marche vraiment pas. Là. Mais pourquoi que le film, j'ai eu de la misère avec, je l'avouerais, c'est il y a vraiment des diversions, tu sais. Puis le moment qui marche, c'est les moments où c'est le making-of du film. Ça, je trouve que c'est passionnant. Même si le plus gros défaut, c'est qu'on tente jamais de rentrer dans la tête du génie créatif. Puis ça, j'haïs ça. Je vais faire un coming out pétage de coche, là. Mais tu sais, dans les astis de films, là, biopic, là, avec un génie, là, asti que j'haïs ça quand que le personnage, t'as l'impression, là, que c'est juste une espèce de... Il a été touché par Dieu, là, puis comme son génie, il a pas besoin de se forcer, puis il est juste génial, puis tout ce qu'il fait est génial, là.
Ouais, ouais.
Tu sais, vous voyez un peu ce que je veux dire, là?
Ouais, ouais.
Puis dans Hitchcock, c'est vraiment ça, genre, tout le long du film, il est un peu tout croche, il est vraiment infantilisé, il est là, puis il mange, puis tout le temps, puis tu sais, comme il fait des blagues, puis tu sais... Mais quand c'est le moment d'être génial, il est juste génial, puis aucune volonté de se mettre dans la tête du génie créatif qui serait.
En même temps, est-ce que c'est nécessairement faux? Est-ce que Hitchcock était quelqu'un qui était pas plutôt très posé, puis qui avait tout le temps la bonne réponse à tout, puis qui se genre je sais pas à quel point la critique est valide dans le sens que est-ce qu'on sait à quel point il travaille. Je sais pas ce que t'aurais voulu voir des scènes de lui qui pense au scénario tard le soir, qui bûche, je sais pas.
Ben, une espèce de conclusion logique, tu sais, 1 plus 1 égale 2, puis on veut trouver 2. Mais c'est que là, dans le film, puis dans trop de mauvais films qui dépeignent quelqu'un de génial, on a juste le 2 en question, puis on n'a jamais eu l'équation, on a juste les réponses tout le temps des réponses.
Ben, en même temps, c'est parce que l'époque où se situe le film, ça fait déjà une bonne partie de la carrière d'Hitchcock qui est faite. Son statut est établi en tant qu'un des cinéastes les plus importants de l'histoire.
Ouais.
Donc, je pense que rendu là, il y avait tellement de grande confiance en soi que c'était plutôt lui qui se proposait des propres défis que les autres pouvaient lui dire.
Mais mon point, c'est que c'est insatisfaisant si on veut rentrer le temps d'un instant dans une bulle, bon, artificielle, j'en conviens parce que c'est un film de fiction, mais une bulle dans laquelle on voit le maître du suspense à l'œuvre. Là, ce qu'on voit, c'est un peu un gros bouffon, tu sais, qui fait des affaires, puis qui a tout le temps la bonne réponse, puis que quand il n'y a pas la bonne réponse, ben, c'est sa femme qui va l'avoir. C'est okay. Vraiment ça, la dynamique.
Ben juste le trailer, il nous donne une touche assez over the top de Hitchcock. Là. Il a l'air vraiment de... Ben, ça devait être un bonhomme plus grand que nature, mais quand même, dans le film, il a l'air d'être très... quasiment caricatural.
Oui, ouais, ben, complètement, c'est ça. Puis j'aime le ton comique, j'aime le ton léger, parce que il y a vraiment des moments où... C'est une comédie, je crois. Mais comédie veut pas dire de rendre son personnage plat, cartoon, puis caricatural... puis dans ce cas-ci, on l'a vraiment infantilisé. Puis ça, c'est damnant parce que, c'est bol, quand tu regardes des entrevues avec Hitchcock, là, les entrevues avec Truffaut, oui, c'est un bonhomme qui est coloré, mais c'est un bonhomme qui a quelque chose à dire. Puis tu prends un 3 minutes d'une entrevue qu'il va donner avec Truffaut, qui sont toutes sur YouTube, allez les voir, chers auditeurs, si vous les avez pas vues. Puis il y a plus de substance puis d'intérêt dans un 3 minutes d'une entrevue random comme ça que dans un film d'une heure et demie où on devrait pouvoir avoir un Hitchcock qui a de quoi à dire sur son métier, tu sais. Puis il y a rien, il y a vraiment rien. Fait que ça, c'est damnant. L'autre chose qui est damnante, c'est il y a comme tout le long du film, Hitchcock est comme hanté par Ed Gein, là, parce que c'est un projet qui est vraiment horrifiant, là, le fait de faire Psycho. Puis je pense qu'ils veulent montrer qu'il est obsédé par son film, mais ça vient avec des espèces d'apparitions clichés du tueur en série, puis ça devient vraiment lassant, là, comme plus le film avance. Puis il y a la relation avec sa femme qui est quand même cute. Tu sais, c'est vrai que c'est bien, puis je content qu'il l'ait mis en ligne de compte. Puis il y a des beaux moments. Les meilleurs moments sont peut-être là aussi. Mais tu sais, il y a des affaires du genre... Hey, je vais vous dire une quote, là. Tu sais, à la fin du film, OK, Désolé, ouais. Là, spoiler, mais c'est pas un gros spoiler, c'est comme une réplique à la fin du film. Puis là, t'sais, il dit à sa femme... qu'est-ce qu'il dit déjà? Ah, parce que sa femme, il a comme une jalousie avec ses Hitchcock blondes, là, tout le long du film. Il essaie comme de mettre ça dans relief. Puis là, Hitchcock, à la fin du film, il dit à sa femme, t'sais, après le succès retentissant de Psycho, il dit... t'sais, il y a aucune Hitchcock blonde qui est aussi belle, qui t'arrive à la cheville. Puis là, sa femme, elle dit... Ah, je t'ai attendu 30 ans que tu dises ça. Puis il dit... That's why they call me the master of suspense. Genre, là, t'es comme... Mais ça, des affaires de même, t'en as vraiment beaucoup. Tu sais, c'est drôle, mais c'est ça. Tu sais, on va pas loin.
Ça m'écœure pas tant que ça. Je l'ai trouvé drôle, tu me le vends quasiment.
Ouais, ben tu sais, c'est fait
que... Mais sais-tu, est-ce que le film mérite son, disons, son échec commercial parce que ça a pas levé ou c'est vraiment, tu penses, la très mauvaise promo autour du film? Tu sais, on n'a pas entendu parler quand c'est sorti. Là. Ben, il y a quelques trailers, mais... Il n'y a pas une grosse campagne, mettons.
Non, c'est vrai. Mais
c'est pas sorti dans bien des cinémas. Pis...
Ouais, ben je pense que le film était un petit peu à l'abandon parce que les critiques n'ont pas full suivi. Puis c'est le genre de film que si les critiques ne suivent pas vraiment, le grand public ne va pas trop suivre, j'ai l'impression. Ouais, il est comme à 55% sur Metacritic. Puis, tu sais, c'est correct, mais c'est pas assez bon. Puis, comme je te dis, le cinéphile en moi, bon, oui, il y a des belles références. Il y a la musique des Hitchcock Presents. Il y a comme. Le fan des Hitchcock va dénoter des affaires qui sont vraiment le fun à trouver. Fait que ça, c'est peut-être le cinéphile, c'est peut-être là où il y a un bonbon. Par contre, le cinéphile ne sera pas satisfait de la mesure où. Le making-of de Psycho, il est construit comme, tu sais, comme un match de boxe, là, comme ça va mal, puis là, ça va bien, puis là, il y a un montage, puis là, ça va bien, puis là, après ça, ça va mal, puis tu comprends, il y a pas une espèce de volonté de...
tu sais, comme la chanson de Ken Twell. Je pense que je suis maniaco dépressif.
En tout cas, bref. Fait que, mais Helen Mirren, son jeu est lumineux, tu sais, c'est je pense que c'est un beau rôle. Anthony Hopkins, ben tu sais, il fait ce qu'il peut avec une caricature d'Hitchcock. Fait que c'est ça. Fait que, ouais, Hitchcock, moi, c'est un. Ça a été ardu un peu.
Bon, ben, donc c'est Hitchcock de Sacha Gervaisi ouais. Qui est disponible en DVD en ce moment et en Blu-ray. Moi, sinon, j'ai écouté un film que j'ai vraiment bien apprécié. C'est Boiling Point de Takeshi Kitano.
Ah, du cinéma asiatique, Paul, qu'est-ce que tu fais?
ben, je me gâte. Je suis comme surpris, là. Ben, justement, je me gâte un peu. Tu sais, long congé de Pâques, j'ai comme plus de temps pour faire les devoirs, etc. Puis écouter un petit film de temps en temps.
Kitano, ça passe bien. C'est toujours comme. Tu sais, même si c'est rough son film, ça va quand même être le fun à écouter.
Ouais, puis.
Boiling Point, c'est un assez classique, je pense. Moi, je l'ai pas vu, là, mais il me semble que j'ai entendu ça souvent. Hein.
Ben, c'est son deuxième long métrage, dans le fond, en tant que réalisateur après Violent Cop. C'est un film vraiment plein d'humour. Ça suit beaucoup. Si je pourrais le comparer avec sa filmographie, là, ça ressemble peut-être le plus à un film comme Kikujiro.
Ah, ok, ouais.
Dans le sens que c'est un film très anecdotique. Il n'y a pas vraiment une trame narrative très forte. Mais encore une fois, ça tourne autour de gangsters, mais c'est vraiment de villages, des petits voyous. Le film sauve, ok, c'est vraiment impressionnant. Le premier plan, c'est comme vraiment très sombre. Tu vois juste le visage d'un gars, puis là, tu te dis, ah, ça va être un. Puis c'est son précédent film, c'est Valenka. Fait que là, tu te dis, ça va être un. C'est quoi qui se passe, tu sais? Y a-tu un meurtre? Pourquoi y a-tu un vol? C'est-tu la nuit? Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est juste genre un joueur de baseball assis dans une chiotte, tu sais, les trucs portables. Là.
Les toilettes chimiques,
ouais. Ouais, les toilettes chimiques. Fait que là, le plan après, il fait juste sortir de la toilette, puis il marche vers le terrain de baseball. Tu sais, c'est tout le temps. Le cinéma de Takeshi Kitano, c'est vraiment beaucoup jouer avec l'anticipation puis les attentes des spectateurs, puis aussi déjouer les codes du montage. Celle-là, je pense que c'est pas lui le monteur encore, mais à partir de son latine, c'est lui qui édite tous ses films. Ouais, c'est vraiment important. Kitano, en fait, ancien humoriste, et aussi au Japon, c'était un animateur de TV. Il y a vraiment beaucoup le sens comique, en fait. C'est crucial dans son cinéma. Puis même dans ces films violents, en fait, il y a vraiment une rythmique qui est intéressante. On pense notamment à Zatoichi, il y a des scènes là, que ça recrée un peu des espèces de musique avec les paysans qui frappent sur des marteaux, qui scient des planches.
Donc, ben, ou un anti-rythme, des fois aussi. Des fois, il y a volontairement une volonté de cassure rythmique qui va créer une espèce de moment d'attente ou un temps mort. Mais le temps mort chez Kitano, c'est vraiment important. C'est comme il les utilise, au lieu de, mettons, couper un noir, ben, il va couper à comme des gens inertes. Puis il va vraiment jouer beaucoup avec ça, justement. Puis je pense que tu l'as bien dit, l'anticipation, le montage. Je pense que l'humour découle beaucoup du montage chez Kitano. Il y a un timing. Ça, c'est définitif.
Ouais, puis souvent aussi, ce qui va être drôle, c'est qu'il va, mettons, il va avoir une scène, il va avoir la tension qu'il va lever, puis il montrera pas du tout le résultat de la scène, il va couper à autre chose, fait qu'il va vraiment, comme, c'est ça, déjouer les attentes, puis c'est ça qui provoque finalement déjà la saveur de Kitano, ça a sa petite touche personnelle, et qui fait que ses films se différencient, parce que le scénario principal de Boiling Point, qui est vraiment pas intéressant, puis tu sais, ça évolue, puis on est rendu à une autre place, il y a un autre, comme Kitano lui-même joue dans le film, il apparaît à peu près à la moitié du film, mais à un moment donné, t'es juste comme, ok, lui est là, puis c'est lui qu'on suit maintenant, tu sais, ça semble quasiment nonchalant, en fait, la narration dans le cinéma de Kitano.
Ben ça, c'est un mot-clé, hein, je pense, la nonchalance, puis des fois même qu'il va te prendre un moment où, ben, je pense que le film, personnellement, moi, je pense que mon préféré de ces films, c'est Sonatine, parce que Sonatine, c'est ça, c'est... Il y a tellement d'attentes, puis le premier acte, t'es comme dans un film de Yakuza hyper rythmé, puis là, tout à coup, t'es comme des gangsters en vacances qui jouent sur la plage, puis tu viens complètement de briser, là, des je sais pas quelle règle de scénario t'as brisé, mais t'as dû en briser beaucoup, là. Ouais. C'est ça qui est plaisant dans ces films, en fait, c'est que c'est déroutant, puis on peut se perdre, puis c'est le fun, puis c'est une mind map qui nous amène, hein, fait qu'en même temps, c'est le fun de se perdre avec lui, tu sais.
Ouais, puis aussi, la première partie de sa carrière est vraiment plus intéressante. Je pense que c'est plus récent film. On sait qu'entre autres, en 2000, il a tourné Brother aux États-Unis. Ça, c'est vraiment pas un très bon film. Il a pas vraiment un grand succès commercial non plus. Zatoichi, bon, c'est un petit peu un retour en force, je trouve. Un espèce de reboot de cette franchise mythique au Japon. Ensuite, le reste...
Plus slapstick, il me semble qu'il y a quand même l'humour un peu... Un peu comme over the top là-dedans. Là.
Ouais, oui, effectivement. c'est moins prononcé. Ouais.
Ok, j'ai pas vu Sonatine.
Sonatine, pour moi, ouais, c'est vraiment son chef-d'œuvre. Il y a aussi Fireworks, après, qui est très bien, mais il est peut-être un peu trop dramatique, je trouve, Fireworks. Puis il fait aussi sa propre. Il fait de la peinture de Kitano, entre autres. Puis dans Fireworks, il y a comme juste trop de plans de genre ses peintures à un moment donné. C'est vraiment comme quasiment des. Tu sais, dans les films d'Ozu, il y a tout le temps des transitions avec des plans statiques d'objets ou un train qui passe ou une maison, tout ça. Mais dans Fireworks, c'est quasiment toutes les transitions, c'est genre une toile de Kitano.
À la Tarkovsky, puis... un peu, là.
Ouais, mais.
C'est pas le même effet que ça donne,
mais. C'est ça. Mais, puis pour ça, pour revenir à Boiling Point, c'est un film, encore une fois, vraiment très drôle. Que c'est peut-être moins lyrique encore que Sonatine. Je pense que Sonatine a porté son cinéma à un autre niveau, mais c'est vraiment parmi ses meilleurs films, je pense, Boiling Point. Puis Sonatine aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme la question, tu sais, qu'est-ce que ça fait les gangsters dans leur temps libre? Parce que tous les films de gangsters, on les voit lors de coups, lors d'enlèvements, lors de guerres de gang, lors de plein d'affaires de même. Sonatine, c'est un peu peut-être un des premiers films qui s'est demandé, ça fait quoi des gangsters dans leur temps libre? Donc,
C'est drôle, à toutes les fois qu'on dit un des premiers films dans telle ou dans telle affaire, il y a tout le temps un film de Robert Morin qui est en avance sur ça. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, là. Puis Robert Morin, il c'est sûr qu'on va le retrouver, là. Mais tu sais, dans Requiem pour un beau sans cœur, qui est l'année avant Sonatine, c'était un peu ça aussi à la fin de Requiem. T'as comme juste les gangsters qui sont genre dans leur shack, là, puis qui attendent de façon un peu morbide que la police vienne les chercher. Là. C'est un peu quasiment ça, là.
Ouais.
Puis tu sais, comme mettons Blair Witch Project, ah oui, c'est bien beau, mais deux ans avant, il y avait quiconque meurt à douleur. Puis en tout cas, c'est juste une micro-parenthèse sur Robert Morin, juste pour nous rappeler à quel point que ce gars-là, un master, bref.
Ben, ouais, non, je renie pas, effectivement, mais en même temps, je crois pas nécessairement que... Sonatine, c'est beaucoup plus exploré, l'espèce de... Tu sais, d'aller chercher l'opposé de ce que tu t'attends du film de gangster. Requiem for a Dream, c'est pas exactement ça le point principal. Requiem for a Beau sans cœur, pardon. C'est pas exactement ça le point principal. Mais non, bref, je sais qu'il est assez dur à trouver, le film Boiling Point Takashi Kitano, mais... Puis Sonatine aussi, hein, c'est pas évident. Fireworks aussi, ça fait longtemps que c'est discontinué. C'est tous des films vraiment qui... Ça mériterait peut-être une ressortie dans un coffret quelconque ou en Criterion ou peu importe. Ce serait bien le fun. Je sais que moi, mon club vidéo, on n'a aucun de ses films, je pense, à part peut-être Outrage, comme son film de 2010, de Gangster, qui est revenu un peu à ses sources. D'ailleurs, ces deux Outrages, c'est peut-être moins bien que cette première phase de Gangster, je trouve.
Il y a Dolls, il a été beaucoup distribué en Amérique du Nord.
Ouais, c'est vrai. Puis c'est pas... Dolls, c'est comme beau à voir, mais... c'est pas non plus génial, je trouve.
C'est inégal, en fait. Je trouve qu'il y a des segments qui sont plus solides que d'autres. Donc, ça donne un film qu'on se rappelle pas tant que ça. On se rappelle plus des images que du film en entier. Par contre, il y a plusieurs vertus, ce film-là. Je veux dire, la musique est sublime. Évidemment, la direction photo, ça fait pas un bon film en soi, ces éléments-là. Mais il y a vraiment des artifices qui sont vraiment bien placés. Puis c'est très compétent comme cinéma. Mais c'est pas un film marquant. C'est un film un peu mou par rapport à ses autres films.
Ouais. Donc voilà, c'était tout pour Boiling Point de Takeshi Kitano, un cinéaste vraiment à découvrir si vous ne connaissez pas ses films. Et maintenant, le film de la semaine, les gars, vous avez vu Spring Breakers d'Harmony Korine. Ça fait longtemps qu'on l'attend.
Spring Break forever, bitches.
Puis... This is my shit, this is my gun, my drugs, this is my axe, I have two types of axe.
This is my bed, but it's an airplane.
It's a spacecraft, man.
What?
Il y a des bon...
And my axe. Ah non, c'était pas la même scène.
Il y a une bonne atmosphère à Harmony Korine, mettons, qui fait bien appel à ses derniers courts-métrages. Puis moi, là, juste d'abord, là, je veux juste dire, Pascal, que t'avais raison. Tu disais, c'est un... en sortant de la salle, t'as dit, on va voir si c'est un film qui passe le test du temps. Là. Ça fait vraiment pas longtemps qu'on l'a vu dans un sens, mais reste qu'en repensant au film, on dirait que je l'aime plus que direct en sortant de la salle.
Rémi, c'est... tu m'enlèves les mots de la bouche. Tu me m'extirpes les mots du palais en ce moment-là. C'est la même chose.
C'est peut-être pas exactement le film auquel on s'attendait. Puis sur le coup, c'est peut-être ce qui m'a déstabilisé un peu. Mais en y repensant, là, c'était quand même malade comme film. Là.
D'ailleurs, un film assez acclamé, Panorama Cinéma, qui donne 9 un 9.
9 sur 10, ouais.
Qui conclut en disant le premier grand film de l'année.
Ben, honnêtement, ça se peut parce que... Ben, je veux juste élaborer sur le point que tu as dit, Rémi, parce que, en fait, Gomo avait fait le même effet, tu sais, parce que c'est que c'est pas des films que le but premier, c'est d'être entraînant et entertaining, pour utiliser l'anglicisme. Tu sais, Harmony Korine, il s'en fiche un peu, même que il a toujours dit, je pense que, tu sais, dans ses entrevues à David Letterman et compagnie, tu sais, il parle de sa relation au cinéma, puis lui... Son but, je pense que c'est de faire des films marquants, c'est de faire des films qui vont s'imprégner dans notre tête, c'est de faire des films différents, qui vont nous faire vivre quelque chose, en bien ou en mal, mais qui vont rester avec nous. Puis c'est ça qu'il dit, dans le fond, c'est comme quand il a fait Gomo, par exemple, il dit « Moi, j'ai pas fait un film avec une narration, c'est décousu, oui, j'en conviens, mais moi, quand je me rappelle des films... » Quand ça fait longtemps que j'ai vu un film, je me rappelle des moments forts, je me rappelle des scènes marquantes, je me rappelle un peu des personnages. C'est bien, bien rare que je suis capable de dire les nœuds dramatiques puis les affaires comme ça. Puis dans un sens, c'est pas fou comme façon de concevoir le cinéma puis de comment que le cinéma s'imprègne dans notre tête.
Mais reste qu'on a quelque chose d'un petit peu plus narratif avec Spring Breakers bon. Qu'avec ces vieux, vieux films comme Gomo, là.
Ben c'est ça, exactement. Non, c'est sûr.
Il a quand même gardé son edge. Il y avait son film Mr. Lonely là, qui était vraiment, vraiment... Pour moi, en tout cas, ça a tombé à plat complètement parce que justement, il a essayé de faire quelque chose d'original, mais d'un petit peu plus charmant pour le public, mettons. Puis il n'y a pas son petit objet de d'habitude, mais Spring Breakers, tu l'as à fond, là.
Ben, c'est ça. Puis il y a plusieurs tours de force dans Spring Breakers parce qu'il te fait méditer. Parce qu'en surface, le film a de l'air niais. Tu sais, si on n'a pas envie de voir l'autre degré, on pourrait facilement se fermer puis de dire ben ouais, c'est juste des personnages qu'on se calisse, qui vont à Spring Break. Ils font des actions, ils sont même pas condamnés par leurs actions, vraiment. Puis en bout de ligne, c'est une espèce de gros mishmash de drogue, de sexe, de lumière, de son, de gun, puis d'argent, puis on sait pas trop où est-ce que ça s'en va.
Puis de cagoule rose avec des licornes dessus.
Mais est-ce que vous pensez qu'ainsi, il va y avoir un certain public qui va être joint puis qui va aduler le film pour peut-être les mauvaises raisons?
Oui. De la même façon que peut-être un Clockwork Orange aura attiré les gens pour les mauvaises raisons. Puis ça, je pense que c'est inévitable, ça, c'est sûr.
Mais déjà, l'ouverture de Spring Breakers, c'est avec du Skrillex. Fait que c'est sûr que tu vas chercher un public assez, assez précis avec ça aussi. Là. Un public qui va écouter ça, un public plus jeune, là, disons.
Oui, mais je pense que la tentative, c'est de mettre un beau miroir dans la face. Si jamais je suis de ce public-là, ben peut-être que le film, peut-être pas, là, parce que c'est vrai qu'il faut quand même y penser, mais peut-être que le film va montrer une espèce de miroir, tu sais, vain, là, comme... Parce que c'est vrai qu'au début du film, là, t'as le gros Skrillex, puis t'as des séquences en slow motion, un peu vidéoclip.
Avec des seins. Beaucoup de seins, la poitrine, il te sature pour être certain que quand tu revois des seins dans le film, tu t'en fous, là.
Ah, tu t'en comptes.
C'est vraiment un effet de saturation. C'est comme À un moment donné, tu penses plus à ça au début, c'est des gros plans là, au ralenti, fait que tu es comme obligé de regarder. Mais c'est pas grave, là, c'est correct. Mais plus tard dans le film, ben, c'est ça, ben, ça continue, mais tu te rends compte qu'à un moment donné, ça devient tellement overwhelming que tu peux plus penser à ça, puis tu peux plus focusser là-dessus, puis le mood switch complètement. Là.
Ah, complètement, puis tu sais, même que c'est drôle parce que le film aussi, il fait une espèce d'entonnoir à l'envers dans le sens où au début, t'as des gros plans en slow motion sur des poitrines, puis plus le film avance, puis plus tu te rends compte, ah, il y a comme une fille en background flou qui a les boules à l'air. Tu sais, c'est... Puis on dirait que le film se recule de ça, plus ça va, puis s'en va vers des préoccupations qui sont plus sombres. Puis c'est ça qui est intéressant aussi, puis c'est ça qui nous fait méditer plus loin. Puis ces personnages-là, c'est un peu un conte de fées moderne, là, dans le sens où, tu sais, ils sont là, puis il y a quelque chose de naïf, tu sais. On revient souvent au rabbit hole, puis à ces contextes-là, mais c'est vrai qu'il y a un peu de ça dans Spring Breakers. Tu sais, c'est toutes des petites Alice, là, qui ont rien, tu sais, ils sont super naïves. Ils ont rien à nous raconter, ces personnages-là. Puis c'est ça qui est intéressant, dans un sens, tu sais, quand on y pense, c'est que on a des personnages qu'on se calisse, qui n'ont rien à nous apprendre. Ils n'ont rien à nous apprendre, ces personnages-là.
C'est du monde très standard, du monde qui disent sur Facebook que je vais aller avec mes chicks au spring break. Là.
C'est ça, exactement.
Ça arrive pas dans le film, ça, c'est mon interprétation de ce qui se passe ailleurs dans leur vie, mais c'est probablement ça qui arrive. Là.
Mais c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, oui, on peut critiquer Harmony Korine de ne pas développer ses personnages, mais en même temps, c'est pas ça le point. T'sais, what's the point? Pourquoi? J'ai pas envie de savoir là, qu'elle étudie en anthropologie ou qu'elle est en train de faire ses sciences humaines au cégep. Là. C'est pas ça qui est intéressant. Puis ça, c'est comme ça, ce serait d'essayer de faire quelque chose d'autre. Non, là, on a vraiment des pièces de viande qui vont au spring break. Puis qui
virent. Se font influencer, mettons, au travers de toute cette aventure-là. C'est ça. Le personnage de James Franco qui arrive. Il est vraiment pas là au début du film, là. Il arrive peut-être au tiers du film, puis il rajoute vraiment une couleur parce que le focus change un peu du film. On reste avec les filles, mais il step sur eux, puis c'est lui qui commence à colorer les personnages, en fait.
Oui, ça, c'est vrai.
Ils arrivent là-bas, puis ils ont justement, comme tu dis, ils n'ont pas de saveur, puis c'est lui qui rajoute cette cuillerée de Nesquik-là dans leur personnage.
Non, c'est vrai. Puis aussi, on en a parlé en sortant de la salle, mais moi, je pense que James Franco, c'est vraiment un bon casting. Parce qu'il peut avoir de l'air tough, puis tu sais, on le voit dans le trailer avec ses dents en argent, puis ses affaires, puis ses tattoos, puis tout le kit. Mais en même temps, James Franco, il y a quelque chose dans les yeux, il y a quelque chose dans le regard, il y a quelque chose dans
très charmant. Là.
De charmant, mais de charmant un peu enfantin, naïf. Tu sais, il peut pas juste être une espèce de tough. Puis j'ai fait la comparaison aussi, je dis, tu sais, prends, mettons, Ninja de Die Antwoord, tu sais, dans son court-métrage chinois, mettons. Puis tu sais, si tu mettais lui qui joue le gangster, ça aurait pas marché.
Parce que il y a juste la tough too much, mais c'est ça. James Franco peut ramener les vraies émotions au travers du personnage qui est vraiment. Ben, c'est un rappeur, fait qu'il prend de la grandeur, il fait son tough, comme tu dis, mais il peut quand même le ramener avec des émotions vraies au travers du film, ben, des exactement. Émotions vraies ou fakées.
Ben oui. Puis surtout que c'était crucial parce que le film s'attarde pas à te donner ces émotions-là. Même que s'il y a de quoi, le film est très décousu, même un peu. Ça, je m'y attendais pas, mais il est un peu quasiment onirique, poétique. Il y a quelque chose de... Tu sais, les voix des filles, souvent, ils vont comme se fondre en voix off. Puis il y a quand même un jeu de lumière aussi. C'est comme les néons la nuit. Il y a vraiment quelque chose
d'image au ralenti, hein, avec des fondus. On se balade entre plusieurs temps, dans le fond. On va revenir en arrière avant leur... par exemple, il va arriver quelque chose de catastrophique dans le film. On va revenir en arrière, voir des images de eux avant leur départ. Puis on va mêler ces images-là pour justement créer une espèce de feeling poétique autour de ça. Là.
C'est ça.
Vraiment pas. Moi, je m'attendais vraiment à quelque chose de... Je te dirais, avant d'entrer dans la salle, quelque chose d'un peu plus trash, là, quelque chose qui... tout de suite, après avoir fait, en plus, les courts-métrages qu'il a fait, mais aussi son trash dernier long, c'était quand même Trash Humpers. Je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus raw, mais c'est... Ouais, il essaie de faire quelque chose de poétique avec un sujet qui est un peu trash, en fait.
Pis ça devient quasiment un motto religieux, là, tu sais, comme Spring Break Forever. C'est quasiment un amen dans une église. À un moment donné, il y a quelque chose de troublant là-dedans, puis dans la répétition, puis dans à quel point que les filles, quand ils essayent de parler, c'est juste, ils se répètent, puis ils font juste formuler différemment quelque chose. Puis même qu'il y a un moment où le personnage de Selena Gomez va dire comme « Ah, if only we could freeze this moment », puis juste, tu sais, comme juste vivre à ce moment-là, toute notre vie, ça serait beau. Puis ça, c'est comme une coche trop loin, trop poussée, puis elle se fait écœurer par les trois autres filles, genre « Tu t'es-tu entendu parler, freeze this moment, blablabla, les part à rire ». Puis c'est comme le seul moment où on dirait qu'il y en a une qui décide de faire une réflexion qui pourrait aller plus loin, puis elle se fait juste ramener au strict minimum, genre. Puis il y a quelque chose de le fun là-dedans, puis c'est une satire, là. C'est vraiment... On peut pas se méprendre avec un film comme ça. Donc, il faut le voir à un second degré. Puis c'est ça qui fait que Crime, le film, nous reste en tête. On a envie d'en parler, on a envie de lire sur le film, on a envie d'avoir des opinions divergentes, on a envie de s'ostiner sur le film. Puis c'est le signe qu'il se passe quelque chose, dans un sens.
Puis qu'est-ce que vous pensez aussi du casting outre James Franco? Parce que là, d'avoir de quoi de vraiment intéressant avec les performances. T'sais. James Franco, un acteur qui joue le rôle de quelqu'un, en fait, qui joue un certain rôle, de se donner l'attitude thug, etc. Mm-hmm. Des anciennes stars de films de Disney, puis d'une fille qui est dans une émission en cours, qui joue comme des anti-rôles un peu contre leur casting. Qu'est-ce que vous pensez un peu de cette espèce de double jeu de performance?
C'est sûr que c'était vraiment une bonne idée de base de choisir ces personnes-là pour incarner les personnages, mais ça va pas tant à l'encontre pour certaines, là, parce que tu as Selena Gomez qui fait celle qui justement veut pas se mêler de toutes ces affaires-là dans le Spring Break. Ouais. Puis elle, c'est un petit peu moins à l'encontre. Disons que c'est dans un film qu'elle n'aurait pas l'habitude de faire, mais le personnage n'est pas trop à l'encontre. C'est plus, comment elle s'appelle donc, l'autre comédienne?
Vanessa Hudgens, la fille de High Vanessa School Musical. Vanessa Hudgens, c'est ça. Ouais, exactement. Ouais. Elle a fait des trees, elle french d'autres filles, elle se fout à terre avec de la. Tu sais, je veux dire, elle sniffe de la coke, ses boules, tout le monde. Elle, il la trash quand
tout
même.
Tout ça. Tant mieux pour elle, genre vraiment, là, tant mieux pour elle de sortir du petit modèle. C'est ça qui va faire qu'elle va devenir une actrice un peu plus reconnue que la Chicks de High School Musical. T'sais.
Peut-être, mais c'est tout le temps risqué parce qu'on sait jamais.
Oui, c'est sûr.
On sait jamais comment que ça peut jouer contre toi. Tu sais, Chloé Sévigny, là, quand elle a fait sa fellation avec Vincent Gallo, là, ça a été le début de la fin. Puis il y en a une couple d'autres comédiennes qui se sont jamais relevées là, d'un rôle qui est allé vraiment loin. Puis là, il y a des actrices.
C'est une chance à prendre. C'est une chance à prendre avec. Le réalisateur peut se planter, même si c'est un bon réalisateur, il peut se planter royalement. C'est mais ça. Elle, Hudgens, elle avait déjà fait Sucker Punch. Là. Bon, elle faisait pas de threesome et de trucs de même, mais il y avait quand même. C'était quand même un film un peu plus edgy. Là. Elle essaye de sortir de son moule quand même, mais.
Ouais, peut-être. Mais tu sais, c'est ce que je veux dire par là, c'est juste parce que ça peut vraiment être. De tracher son image, ça peut vraiment aller à l'encontre. On se rappellera toujours de Lindsay Lohan dans son fameux film. Là, c'était comme une rose bleue, le cover. C'était quoi déjà le film là, où elle jouait une...
I Know Who Killed Me, là.
Ouais,
elle faisait une danseuse.
Ouais. Ça, je veux dire, ça a été un désastre de choix de carrière. Là.
Ouais. Mais je pense que rendu là, sa carrière battait déjà de l'aile. Là. Lindsay Lohan, son seul... C'est pas comme si ses choix de film, c'est son seul problème. C'est ça que je veux dire.
Non, ouais, OK. À ce niveau-là, c'est vrai. Je suis peut-être d'accord. Puis Rachel Corrine, excuse-moi Rémi, je t'avais dit que c'était la femme de James Franco, mais c'est pas vrai, c'est la femme d'Harmony Corrine, en fait.
Ouais.
Ah, OK.
C'est ça. Ouais. Mais elle a de l'air vraiment... elle a de l'air plus jeune que lui, mais en même temps, ça...
Ben ouais, elle a à peu près, je pense, 12 ans de moins que lui, quelque chose comme ça.
OK, ouais, bon, c'est ça. Je pense que la volonté de détruire une image qui est un peu factice, puis de s'attaquer un peu entre les lignes à l'Empire Disney, parce que c'est un petit peu ça qu'il fait sans le faire, je pense que oui, ça témoigne de son message. Hein, moi, je pense que c'est pas un hasard, hein, parce qu'il aurait pu prendre... il aurait pu prendre des non-professionnels, ou il aurait pu prendre n'importe qui, tu comprends?
Mm-hmm.
Mais non, il a pris deux filles qui sont associées à Justin Bieber puis à High School Musical. Fait que c'est pas un hasard. Là.
Donc vous pensez que c'est peut-être une façon de décrire une espèce de jeunesse éduquée au dîner puis qui, à un moment donné, se rend compte, tu sais, qui rentre dans la vie pour de vrai, pour la première fois, qui bat de leurs propres ailes, sont confrontés un peu à la drogue, à la séduction, à tout ça?
Ben en même temps aussi, c'est une critique au modèle de la vraie Lindsay Lohan. Je veux dire, d'un côté, tu joues la petite fille dans Mean Girls, puis d'un autre côté, tu vas te péter la face à coke dans les parties Hollywood. T'sais, c'est comme... Je pense qu'il dénonce une certaine hypocrisie d'une image qui est comme trop léchée, peut-être, à travers ça. Mais vraiment, le Spring Break, moi, je pense que... Tu sais, comment c'est incarné là? Tu sais, il y a eu quand même plusieurs critiques d'Harmony Corrine que... il se rince l'œil, puis il filme là, les corps des femmes, puis ça, puis bon. Moi, je pense que c'est vraiment pas le cas, parce qu'il y a quelque chose qui devient quasiment dédaigneux au fil du temps. Puis comme Rémi t'a dit, il y a vraiment une saturation, puis c'est pas un hasard. C'est comme, au début, il y a peut-être quelque chose d'un peu excitant, mais à un moment donné, c'est juste décadent. Puis à un moment donné, ça passe le stade du décadent, ça devient vide. C'est comme la vacuité, c'est nihiliste, ce film-là. Puis c'est ça qui est capoté. À la fin, là, il y a plus aucune action qu'une conséquence. Puis la finale du film, là, quand vous allez le voir... Vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire. Il n'y a plus aucune action qui a de conséquences. C'est vraiment genre... Ils sont là, ils ont des guns, puis... Ils font ce qu'ils peuvent, là.
mais c'est intéressant ce que vous dites à propos de l'espèce de saturation du sexe puis de la violence, etc. Ça me donne quasiment le goût de réévaluer Piranha 3DD.
Finalement, c'était peut-être pas si mauvais. Hein?
C'est peut-être une satire sur.
C'est une déconstruction du film d'horreur.
Tu te souviens à ma critique de Taken qui...
Fait que moi, Spring Breakers, écoute, c'est bon signe quand t'as encore le film en tête. Là, ça fait quoi? Ça fait 4-5 jours. Puis moi, ouais, je pense que. je pense que c'est un des gros films à voir, pour ne serait-ce que pour s'en faire une opinion. Puis je suis très ouvert à discuter puis avec des gens qui n'ont pas aimé ça, parce que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va aimer ça. Je peux pas le je serais hypocrite de dire « Ah ouais, allez voir ça », puis tout le monde... T'sais, c'est pas vrai, c'est pas ce genre de film-là. C'est pas le genre de film que tu conseilles à qui mieux.
Ben c'est un film qui divise beaucoup. Hein. Olivier Bouchard, notre ami qu'on avait invité au TIFF, et puis qui avait vu le film au TIFF, qui nous en avait parlé comme d'un film nul et sans intérêt, alors que de l'autre côté, il y a vous, il y a Panorama Cinéma qui dit que c'est le meilleur film de l'année.
C'est ça. Puis d'un autre côté.
On doit pas dire meilleur film de l'année, là, en tant que l'année.
Ben, le premier.
Est-ce que c'est un très bon film?
Le premier grand film de l'année, pardon.
Ben, peut-être. Vous avez, ouais, moi, je pense que c'est à peu près ça son titre, peut-être. Puis, mais c'est pas juste ça, tu sais. Il y a comme. Je pense que c'est Marc-André Lucier qui a vraiment. Il en a fait une critique, mais dans sa critique, c'est drôle parce qu'on sent qu'il est dépassé par le film. Puis j'ai lu quand même beaucoup de critiques qui étaient plus négatives du film, puis on dirait que c'est ça le sentiment qui revient souvent entre les lignes de la plupart des critiques négatives, c'est comme de l'incompréhension.
Donc vous pensez que c'est générationnel, l'attrait du film?
Est-ce que c'est générationnel? Je verrais mal ma mère aller voir ce film-là.
Oui, effectivement!
Ça, c'est sûr. peut-être, mais peut-être pas en même temps. Tu sais, C'est une bonne question.
Puis toi, Pascal, qui a vu pas mal toute la filmographie de Corinne, toi aussi, Rémi, t'en as vu plusieurs. Comment vous le classez par rapport à ces autres films? Est-ce que c'est aussi bon qu'un truc comme Gomo, comme Kids?
Ben, il est plus accessible que Gomo, en fait. C'est ça qui est fun. Hein? Oui. Mais reste que c'est pas 100% accessible parce que, comme on disait, c'est pas tout le monde qui va voir ce deuxième degré-là. C'est dur à dire parce qu'il fait beaucoup d'essais, Armand Corinne. C'est pas un cinéaste qui a une filmographie qui est vraiment... T'as pas une continuité dans. Tant mieux, là.
Ouais,
tant
c'est,
mieux,
c'est tout à son honneur, effectivement.
Moi, je trouve qu'il est vraiment là en force avec ses courts-métrages, en fait, dans les dernières années, là. Depuis Trash Humpers, il a fait quelques courts-métrages, j'en ai vu quelques-uns. Puis c'est vraiment solide parce que tu vois que là, dans un petit espace concentré, il peut raconter une histoire. Puis, mais c'est vraiment dur à dire le classer dans sa filmographie.
Ben, c'est plus
écoutable que Trash Humpers, mettons.
Ouais, puis je te dis, c'est dans la bonne moitié. Moi, j'ai un attrait particulier autour de Gomo et Kids. Kids, en fait, c'est pas lui qui l'a réalisé, mais c'est quand même. C'est
sa signature. Ouais, il l'a écrit, là.
Ouais, c'est ça, mais c'est. Puis. En tout cas, c'est vraiment sa signature, quand même, beaucoup, malgré tout. Là. Ces films-là sont peut-être plus marquants, mais je pense qu'en 2013, il n'y a plus beaucoup de tabous. Puis je pense que Spring Breakers, il est quand même choquant, malgré tout. Puis ne serait-ce que pour ça, ne serait-ce que pour en faire un film aussi corrosif, c'est vraiment un bon signe. Puis je pense que le temps va nous dire où est-ce qu'il se place dans l'histoire du cinéma, ce film-là. Puis c'est dur, regarde, vois-tu, moi, déjà, je l'ai réévalué, puis ça fait 3-4 jours que je l'ai vu. T'sais, où est-ce que le film va se placer dans quelques années? T'sais, c'est ça que j'ai hâte de voir. Mais je te dirais que oui, il est dans le tiers, peut-être le plus intéressant de la filmographie d'Harmony Corinne, à mon avis.
Bon, mais ben, très bien. Donc, Spring Breakers, qui est à l'affiche dans les cinémas de Montréal en ce moment, d'Harmony Corinne. Et sinon, qu'est-ce qui sort en DVD cette semaine, Rémi?
Déjà, hein? Mais voyons, ça fait juste 45 minutes qu'on parle. Hey, cette semaine, il n'y a pas grand-chose, c'est rare que je dis ça, mais par exemple, il y a The Master qui sort. Fait que pour ceux qui ont manqué ça, louez-le et écoutez-le sur une grosse télé, pas sur votre iPod, s'il vous plaît. Il y a le film John Dies at the End que j'ai très très hâte de voir parce que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup beaucoup, mais que Paul a vraiment vraiment pas aimé.
Non, j'ai pas non plus détesté le film, je trouve juste que c'est un film un peu trop léger et une narration un peu improbable.
Je vais adorer ça. Ouais. sinon, il y a le gros box set qui n'a pas de bon sens de Marvel Cinematic Universe Phase 1. 10 disques, 6 films. Donc Iron Man, Iron Man 2, Incredible Hulk, Thor, The Avengers, puis il m'en manque un. En tout cas, c'est pas mal ça. C'est un
Captain gros America. Box set
avec... Captain America, c'est ça. Avec plein de livrets, un casing qui ressemble à la mallette dans Avengers. Puis tout ça pour la modique somme de 145$ en Blu-ray.
Donc pour financer Captain America 2 avec Georges Saint-Pierre.
Ouais, exactement. Puis il y a le film Hello Dolly, une réédition en Blu-ray.
Parfait.
Et voilà.
Puis en salle, Pascal, qu'est-ce qui sort le 5 avril?
Oui, les sorties en salle, c'est une chose, mais il y a aussi ce qui se passe à la Cinémathèque. Paul, qu'est-ce qu'il y a à la Cinémathèque cette semaine?
Oui, bien, à la Cinémathèque, comme à chaque semaine, il y a toujours des trucs intéressants. Une couple que je vais souligner, vendredi, le 5 avril, à 16h, c'est Pickpocket de Robert Bresson.
Oui.
Ça, c'est un film absolument génial qui a certainement influencé des parties de Gangs of New York, de Scorsese, avec tous les jeux de pickpocket. Et c'est, sérieusement, si vous ne connaissez pas encore Robert Bresson, c'est l'occasion, jamais. C'est certainement un de ses films les plus accessibles, très court.
Oui, ça c'est vrai. C'est, ouais.
Ouais, puis très court, une heure et quart. Et puis c'est quelqu'un aussi qui a... il y a vraiment une manière très particulière de travailler avec ses personnages, la psychologie, beaucoup de voix off, beaucoup de voix intérieures. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, ouais, puis Pocket, en tout cas, il y a plusieurs chefs-d'œuvre. Là, Robert Bresson, c'est dur de vraiment dire quels sont les meilleurs films, mais c'est parmi ces chefs-d'œuvre, selon moi. Ensuite, samedi, un autre film d'horreur Bresson que j'ai pas vu, celui-là, L'Argent de 83.
Ok, ouais. Celui-là, moi, j'ai vraiment eu de la misère avec, par exemple. Mais tu sais, Bresson, il y a une relation avec le jeu, l'acting, là, qui est vraiment particulier. Puis plus ça va dans sa carrière, puis plus il et extirpe les émotions, en fait, de ses sujets, parce qu'il les appelle ses sujets, là, d'ailleurs, ses personnages. Puis il y a un petit livre, je vais en profiter pour faire un petit plug littéraire, il y a le livre de Robert Bresson, Notes sur le cinématographe.
Ouais.
C'est juste une espèce de recueil de pensées de ce cinéaste-là, et c'est très, très, très inspirant, en fait. Ça peut se lire en dedans de 2 heures, mais il y a vraiment une relation avec son médium qui est particulière, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas. Tout à coup, le film devient un autre objet, puis c'est le fun de théoriser sur ce qu'on voit. Puis je pense que Bresson, dans son livre, puis avec ses notes, puis avec un petit accès comme ça à sa tête, c'est très, très, très inspirant. Donc c'est un livre que je conseille beaucoup. Mais dans L'Argent, il y a tellement tout sucé la vigueur de ses sujets qu'il y a vraiment plus grand-chose, puis... c'est comme trop conceptuel, puis c'est un film un peu à gimmick en plus, là, avec l'argent qui se promène d'une main à une autre, puis je l'ai trouvé un petit peu sans vie, en fait. Mais bon, ça, c'est peut-être juste moi, je veux dire, ça reste du Bresson, donc c'est meilleur que 99% des films que vous allez voir.
Puis je te rejoins aussi sur son recueil, il y a Notes du cinématographe, c'est sûrement l'un des meilleurs livres sur le cinéma. C'est vraiment ça, un petit recueil de pensées. On peut en lire comme... C'est le genre de livre qui est bon, en fait, à traîner sur des tournages si jamais vous êtes cinéaste, si vous faites des courts-métrages. Parce que des fois, c'est juste un peu d'inspiration. Puis un livre qui ressemble un peu à ça aussi, que j'aimerais ça plugger, c'est Catching the Big Fish de David Lynch.
Oui!
Puis encore une fois, c'est un livre qui se lit très bien. C'est des petites pensées. Puis c'est un peu similaire dans la forme. D'ailleurs, il y a la phrase marquante du livre qui donne un peu son titre. C'est, je vais le traduire, mais en gros, capturer une idée, c'est comme capturer un poisson. Si tu veux avoir les plus gros, il faut aller profond et être patient. Donc, food for thought.
Food for thought, ouais, c'est ça.
Puis sinon, samedi à 19h, The Third Man, de Carol Reed, que plusieurs considèrent le meilleur film britannique de tous les temps.
Je suis pas d'accord parce qu'il y a Powell et Pressburger dans le décor, mais The Third Man, ça reste quand même un incontournable. Je pense que c'est un film noir assez iconique, ne serait-ce que pour la séquence à la fin dans les égouts, la façon comment c'est éclairé. C'est vraiment un tour de force. Bon suspense, je veux dire, film de 1949 de Carol Reed, c'est aussi c'est un gros classique. Là. Donc si vous l'avez pas vu, ça vaut le détour.
Moi personnellement, ce serait sûrement Odd Man Out, mon film britannique préféré.
Ah oui, j'ai pas
mais,
vu
celui-là. C'est un très bon film à voir. Et dimanche à 17h, c'est la projection en 35mm de Jeanne Dielman de Chantal Akerman. Donc, ce film de 3h15 sur une femme au foyer. Alors, voilà. Et sinon, en salle, dans les cinémas réguliers, qu'est-ce qui sort, Pascal, le 5 avril?
Le 5 avril, les cinémas réguliers. Mais, encore une fois, il y a le 4 avril. Ça, c'est au Centre Faye, en fait. C'est juste de mentionner parce que c'est intéressant. Il y a le film de Noah Baumbach, France A. Francis Ha, en tout cas, je sais pas comment prononcer, film en noir et blanc du réalisateur de Squid and the Whale, qui sort, parce qu'il sort quand même seulement fin mai sur nos écrans, mais le 4 avril, il est au Centre Phi en primeur. Donc, moi, je vais essayer d'y être personnellement.
Ils font souvent ça, le Centre Phi. Puis, c'est ça, pour ces projections-là, qu'ils appellent ça les VI films, Very Important Films, c'est comme souvent des projections, une seule représentation unique, quelques semaines, voire mois avant la sortie officielle. Donc, c'est quasiment obligatoire d'acheter les films d'avance sur Internet si vous voulez avoir de la place, parce que ça se vend très, très vite, les séances.
D'acheter les billets plutôt, mais oui, oui, oui. Ouais. Fait que c'est ça. Bon. Et en salle, régulier, le 5 avril, il y a le film 11.6 de Philippe Godot avec François Cluzet. Le documentaire québécois En attendant le printemps de Marie-Geneviève Chabot. Il y a le retour des T-Rex et des vélociraptors et de tout ça dans le Jurassic Park, mais en 3D. Il y a le film Ginger et Rosa de Sally Potter. Il y a le fameux film Léviathan, le documentaire à essai. C'est le réalisateur. Les réalisateurs, plutôt. C'est Varena Paravel et Lucien Casting-Taylor. C'est un film, c'est un documentaire, une coproduction France, Grande-Bretagne, États-Unis. C'est un film distribué ici par iSteel Film. iSteel qui n'a plus rien à prouver. La bande-annonce laisse présager quelque chose d'absolument saisissant. Des images hypnotiques. Je pense qu'ils utilisent des GoPro, ça s'en va dans l'eau, il y a des plans à la proue du navire, tout se passe comme dans l'eau. Donc, en tout cas, ça a l'air d'être un film méditatif très, très, très intéressant pour les cinéphiles. Il y a le remake Devil Dead de Fede Alvarez.
Oui,
dit-il. Il y a le documentaire américain-français Love Marilyn. Ça, c'est en fait, ils ont découvert, près de 50 ans après la mort de Marilyn, des écrits intimes, comme le journal intime en fait de Marilyn Monroe. Puis ce serait un peu exposé comme ça dans le documentaire en question. Donc voilà. Il y a le film, le drame canadien-anglais Mad Ship de David Martin. Et finalement, le film français à succès Omblin de Stéphane Cazès, que je ne connais pas, mais je sais que c'est au César, il était bien représenté et tout, donc ça vaut la peine de regarder ce que c'est. Et voilà.
Mais toute une semaine quand même hein, pour les amoureux du son, parce que on dira ce qu'on voudra contre Jurassic Park, mais s'il y a un film que le sound design est vraiment irréprochable, selon moi, c'est ce film-là. Puis moi, c'est au-delà du 3D, ça serait pour cette raison que j'aimerais ça le revoir en salle peut-être. C'est pour vraiment avoir le 5.1 qui me pète dans les oreilles. Mm-hmm. Parce que toute une expérience. Et Léviathan aussi, j'ai juste vu la bande-annonce, mais les retours qu'on a, ça, c'est censé être un des grands, grands films de l'an passé. Et le sound design, encore une fois, a l'air vraiment impressionnant. Donc, pourquoi pas se laisser sur cette bande-annonce lyrique où on va juste entendre des bruits d'eau et puis ça va peut-être donner le goût à certains d'aller voir
Je pensais qu'on film. Mettrait du gros John Williams. Là. J'espérais ça. On va dans l'autre opposé.
Ouais, ben, faut dire qu'on en a écouté déjà beaucoup du John Williams. Donc, peut-être laisser la chance à un petit film comme Léviathan qui risque pas de rester à l'affiche très longtemps. Donc,
avec ses bruits d'eau.
Ouais. Ouais. Donc, c'était notre point de vue. Mon nom est Paul Andriot. J'étais avec mes collègues.
Rémi Fréchette.
Et Pascal Plante.